Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Bon alors si c'est comme ça, je reste.
Quoi, ici?
Oui, ici, on est très bien, non?
Je suis très bien, et je suis très bien parce que je suis tout seul, c'est clair?
Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouverez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Quand les médecins veulent donner aux enfants l'absinthe rebutante, auparavant ils enduisent les bords de la coupe d'un miel doux et blond pour que cet âge étourdi, tout au plaisir des lèvres, avale en même temps l'amère gorgée d'absinthe. Si la connaissance philosophique est l'absinthe, parfois difficile à avaler, le poème de Lucrèce est le doux miel qui vous instruira tout en vous faisant rêver. Alors en quoi la connaissance de la nature adoucit-elle la peur de mourir? Comment croire aux dieux tout en acceptant leur indifférence à notre égard? Peut-on être religieux sans être superstitieux? Et comment être libre dans un monde fait d'atomes? Cette semaine, les Nouveaux Chemins vous conduisent sur les pas de Lucrèce, celui dont on ne sait rien, sinon qu'il est l'auteur d'un poème sublime qui modèle la matière philosophique d'Épicure en vous laissant sur les lèvres un goût sucré et mélancolique. Bonjour Pierre-Marie Morel.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et c'est vous qui allez être notre guide pour cette première émission.
La vie humaine, spectacle répugnant, gisait sur la terre, écrasée sous le poids de la religion, dont la tête surgit des régions célestes, menaçait les mortels de son regard hideux, quand, pour la première fois, un homme, un grec, osa la regarder en face, l'affronter enfin. Le prestige des dieux ni la foudre ne l'arrêtèrent, non plus que le ciel de son grondement menaçant. Mais son ardeur fut stimulée au point qu'il désira forcer le premier les verrous de la nature. Donc, la vigueur de son esprit triompha et dehors s'élança, bien loin des remparts enflammés du monde. Il parcourut par la pensée l'univers infini. Vainqueur, il revient nous dire ce qui peut naître ou non. Pourquoi enfin est assigné à chaque chose un pouvoir limité, une borne immuable? Ainsi, la religion est soumise à son tour, piétinée. Victoire qui nous élève au ciel.
De la nature, c'est le titre de ce poème de Lucrèce auquel nous allons consacrer toute cette semaine, cette série d'émissions, Pierre-Marie Morel, et c'est un texte d'une beauté lyrique incroyable. On vient l'entendre, un extrait interprété par le comédien Georges Clès, mais aussi d'une grande mélancolie. Et tout ce texte peut être compris comme un hommage, ou même plus qu'un hommage, une lecture très serrée des textes d'Épicure. Le poème de Lucrèce est indissociable des textes d'Épicure, n'est-ce pas?
C'est l'arrière-plan permanent, radical, fondamental même du poème de Lucrèce, de la nature des choses, effectivement. Et cet éloge d'Épicure qui vient d'être lu, un des éloges, on en trouve quelques-uns dans le De Rerum Natura, cet éloge montre bien toute la vénération de Lucrèce à l'égard de celui qu'il appelle Rerum Inventor, le découvreur des choses, plutôt découvreur qu'inventeur, celui qui nous révèle véritablement par la lumière qu'il projette sur la nature ce que sont les choses elles-mêmes. Et c'est cette figure paradigmatique, fondatrice, à laquelle Lucrèce, d'une certaine manière, donne une seconde voix, mais par l'intermédiaire de la poésie. C'est-à-dire par l'intermédiaire d'un mode d'expression qui précisément n'est pas celui d'Épicure. Et c'est sans doute ça qui fait le caractère véritablement fascinant de cette, entre guillemets, traduction, puisque Lucrèce se dit traducteur d'Épicure, c'est à la fois une traduction et une transformation.
Mais y a-t-il une valeur ajoutée quant au fond de la pensée d'Épicure au sein du texte de Lucrèce, ou bien n'est-ce qu'une mise en forme très belle, certes, mais assez répétitive au fond ?
Alors, quand on lit le poème et quand on lit Épicure, on retrouve des formules pratiquement textuellement empruntées à Épicure lui-même. Et sur le fond de la doctrine, il est très clair que Lucrèce est parfaitement orthodoxe. On a même pu dire qu'il était en un sens fondamentaliste, au sens le plus positif du terme, dans son rapport à Épicure. Cela étant dit, nous avons perdu beaucoup de textes d'Épicure. Donc, ce que nous avons conservé, ce sont, on y reviendra peut-être, mais des lettres, des maximes, des fragments, notamment des fragments papyrologiques. Mais nous ne savons pas exactement à quel texte Lucrèce a eu accès, à quel texte d'Épicure. Et par ailleurs, on voit sur des thèmes à propos desquels Épicure se prononce, on voit des inflexions de temps en temps. On voit des choses légèrement différentes parfois de ce que Épicure a pu dire. Et puis on voit émerger des thèmes qui sont sans doute commandés par les débats philosophiques postérieurs à Épicure, puisqu'Épicure, on le situe, pour rappeler les choses, entre 341 et 270 avant notre ère. Lucrèce, comme vous le rappeliez, vit au 1er siècle avant notre ère, dans la première moitié sans doute du 1er siècle. Et l'activité philosophique de toute cette période intermédiaire est considérable. Et on voit notamment l'émergence d'une des écoles philosophiques les plus importantes de l'Antiquité, à savoir le stoïcisme, encore naissant au moment où Épicure écrivait. Et donc, Lucrèce doit procéder à une sorte d'aggiornamento de la pensée d'Épicure lui-même pour faire face aux polémiques très fortes qui se sont très tôt manifestées contre l'épicurisme lui-même. Donc, je suis tout à fait d'accord pour ma part pour penser qu'il y a fondamentalement une reprise très fidèle d'Épicure et en même temps une reviviscence, une manière d'affiner, de préciser l'épicurisme, en partie pour des raisons polémiques.
À chaque chant de son poème, celui-ci est constitué de différents chants, Lucrèce rend hommage à Épicure, il appelle ça d'ailleurs un éloge directement. Et dans celui qui a ouvert l'émission, on entendait cette phrase, « Pour la première fois, un homme, un grec, osa regarder la nature en face pour l'affronter enfin. » Et c'est vrai que si le poème s'appelle « De la nature » ou « De la nature des choses », c'est aussi parce que reprenant la voie tracée par Épicure, Lucrèce va nous décrire un monde qui est entièrement fait d'atomes, où rien ne naît de rien, et qui va devoir affronter cette nature parce qu'elle n'est pas toujours forcément bienveillante, on va le voir, parce que c'est parce que la nature est faite d'atomes que bien souvent l'homme est pris dans des passions dont il est très difficile de se défaire. Pierre-Marie Morel.
Épicure, tel que Lucrèce nous le présente, est celui qui veut sonder les mystères de la nature, nous révéler ce qui est sous-jacent aux apparences. Et ce qui est sous-jacent aux apparences, ce sont d'abord les principes de toute chose, que sont effectivement les atomes et le vide. Ces atomes, qui sont pas exactement les atomes que la physique contemporaine nous décrit aujourd'hui, mais des petites particules de matière insécables, puisque c'est le sens du grec atomos, et qui sont en mouvement permanent dans l'univers, dans un univers infini. Ces atomes eux-mêmes sont en nombre infini. Et au gré d'heureuses circonstances, donc fondamentalement par hasard, il arrive que ces atomes forment des mondes, sans qu'aucun dessein providentiel, aucun dessein divin n'ait présidé à cette opération. Les atomes, c'est aussi ce dont nous sommes constitués. Vous et moi, nous ne sommes rien d'autre fondamentalement que des atomes et un vide interstitiel. Et nous-mêmes, nous sommes voués au même type de devenir que tous les agrégats d'atomes, y compris les mondes, c'est-à-dire génération progressive et puis dissolution un beau jour. Cette manière épicurienne de sonder les mystères de la nature, elle se fait d'abord contre la religion, et c'est ce que dit le texte qui a été lu en premier. Puisque précisément, la religion telle que la décrit Lucrèce, propose une autre explication du monde. Et propose des raisons ou impose des raisons de voir dans la nature une menace, Les épicuriens répondent, mais il n'y a aucune menace dans la nature. Parce que s'il y a des dieux, et il y en a, ils ne cherchent absolument pas à nous menacer, ils sont impassibles, exempts de passion, indifférents à nos agissements, et la nature elle-même, elle est tout à fait neutre. Il n'y a pas de sens dans la nature, il n'y a pas quelque chose qui nous parlerait, il n'y a pas de parole qui s'adresserait à nous, il y a simplement l'état des choses. Et c'est cet état des choses qu'il nous faut découvrir pour nous libérer, au premier chef, de la peur des dieux et de leurs préoccupations imaginaires, et d'une manière générale de toute une série de passions, puisque, comme vous l'avez évoqué, c'est un des propos fondamentaux du poème de Lucrèce.
Donc le but est d'atteindre une forme de vie heureuse ?
Le but est assurément d'atteindre une vie heureuse. L'impératif, pour un épicurien, c'est le bonheur. Si on pense au début de la lettre à Ménécée d'Épicure, qui est le grand texte éthique d'Épicure qui nous soit conservé, la première chose qu'Épicure prend soin de dire, c'est « il faut être heureux, tu n'as pas à te poser de questions pour savoir si être encore trop jeune pour le bonheur ou déjà trop vieux pour l'espérer, non, tu dois être heureux. » Et c'est un impératif naturel qui s'adresse à toi.
Bonjour mon petit.
Bonjour papa.
Tu vas bien ?
Très bien.
Tu es de bonne humeur ?
Ah.
Tu as bien raison, faut toujours être de bonne humeur.
Tu es toujours de bonne humeur, toi.
Ah oui.
C'est si probablement qu'il ne peut plus rien t'arriver.
Si.
Quoi ?
Mourir.
Oh.
Ah, non, mais ça a une telle importance que ma foi tout le reste.
Tu y penses que quoi ?
À la mort, tous les jours. Bon, le soir, ce serait trop triste, mais le matin, en me réveillant, et ça n'est pas triste du tout.
Alors, tu continues à trouver que la vie...
Il n'y a rien de mieux. La vie, mais c'est magnifique. Seulement, il ne faut pas la compliquer. Elle ne demande que ça.
Tu ne te trouves pas seul, papa, dans la vie, quelquefois?
Bien sûr que si, je suis seul.
Ah, tu vois.
Tout homme est seul au monde.
Ah, ne dis pas ça.
Mais quoi, ça n'est pas triste, ça. Ce qui est triste, c'est d'être entouré d'un tant de gens qui vous embêtent. On est très bien tout seul, je te jure.
Ah, mon Dieu, mais ça, mais tu es donc heureux?
Oui.
Vraiment?
Mais oui!
Tu es heureux, ah, par exemple. Et pourtant, je te manque, pardon de te dire ça, mais enfin, tu vis d'une façon exclusivement matérielle.
Peut-être.
Et tu ne crois à rien.
Rien du tout.
Mais l'amour.
Les femmes.
L'amour, quoi.
Oui, mais l'amour, malheureusement pour nous, c'est les femmes.
Bon, eh ben, les femmes.
Ah, c'est joli.
Ah.
C'est très joli, bien sûr.
Mais
quel petit chameau.
Oh, pas toutes, papa.
Non, je parle de celles qui sont jolies.
Ah, tu es terrible. Ah, tu es décourageant, papa.
Mais non, ne bidons pas d'illusions. C'est ça qui est bête. La réalité, quelle qu'elle soit, est bien plus belle que l'illusion.
Tu en es sûr?
Oui. Et puis que tu le veuilles ou non, crois-moi, dans une vingtaine d'années, tu diras en faisant comme ça avec tes mains. Non, ne m'ennuyez pas. Laissez-moi passer. Fichez-moi bien la paix.
Et voilà, fichez-moi bien la paix, c'est peut-être ce que l'épicurien accompli dirait à celui qui l'entoure. Et si c'est le père de Sacha Guitry dans le film Mon père avait raison, interprété par Gaston Dubosc, hein, qui le dit et qui semble incarner Pierre-Marie Morel, l'épicurien par excellence, à savoir un homme qui se dit heureux parce que seul, parce que sans croyance et parce que préférant la réalité à l'illusion.
Oui, il y a des traits épicuriens effectivement dans cet extrait. Et l'épicurisme n'est pas totalement monotone dans sa description du bonheur et il le dépeint de manière souvent assez subtile, parfois contrastée. L'idée d'avoir la paix, de se tenir à l'égard du monde et des autres, c'est un thème très important pour l'épicurisme ancien et c'est un thème qui restait très fameux. Et même dans la version populaire contemporaine de ce que serait l'épicurisme, on connaît bien l'expression bon, « voilà, je vais cultiver mon jardin, maintenant je me... »
C'est Alexandre le Bienheureux, oui.
Voilà, par exemple. Et donc ça, c'est vrai. Et c'est vrai que, par exemple, Épicure avait ce mot comme un slogan qui attestait sa défiance à l'égard de la vie civile, de la vie politique, au sens large, « cache ta vie, vie cachée ».
Vie cachée.
Laté, biosas. Et donc, c'est vrai que l'épicurien, préfigurant de ce point de vue-là d'une certaine manière Voltaire, par exemple, est celui qui se dit, mais il vaut mieux se tenir à l'écart du monde, à l'écart des autres, parce que c'est une source de perturbation et il faut rechercher la paix et la tranquillité dans une forme de solitude. Ça, c'est vrai. Mais, à côté de cela, il faut regarder de près comment cette solitude se réalise concrètement. Et les épicuriens, même s'ils sont très méfiants, notamment à l'égard de la vie tumultueuse des cités, cherche toujours à recréer des communautés. C'est très important dans la, dans la vie d'Épicure lui-même, qui fonde une communauté, parce que l'école d'Épicure, c'est pas un établissement d'enseignement supérieur, c'est pas une université ouverte, c'est pas un endroit où on accueille les gens pour leur dispenser un enseignement et après quoi ils rentreraient chez eux et vaqueraient leurs autres occupations. C'est peut-être un peu cela, mais c'est aussi surtout une manière de vivre ensemble. Et à l'intérieur du jardin d'Épicure, on vit ensemble. La communauté s'organise, Épicure en norme le fonctionnement, il institue des règles de vie communes, etc. C'est très important parce que le lien social à l'intérieur de cette communauté-là, c'est l'amitié. Donc effectivement, l'épicurien vit à l'écart, se méfie du tumulte du monde, mais en même temps, il sait que, et le sage, en tout cas épicurien, se définit ainsi, il sait que le bonheur auquel il vise, il va l'atteindre par l'amitié, par une forme de vie commune. Dans le cas de Lucrèce, c'est un peu plus complexe, parce que nous ne savons rien de sa vie. Nous ne savons pas s'il vivait dans une communauté comme d'autres épicuriens ont pu le faire. On sait simplement qu'il s'adresse à quelqu'un, Memmius, un aristocrate, prêteur romain, dont on ne sait pas grand-chose par ailleurs, mais il s'adresse à quelqu'un qu'il appelle aussi, parfois mon ami. En tout cas, il tend vers une certaine amitié. De quelle nature exactement, c'est difficile à savoir. Il est difficile de le savoir. Lucrèce semble briller comme une étoile un peu isolée, si on le compare à Épicure, mais en même temps, son poème s'adresse à quelqu'un d'autre. Donc il y a à la fois, aussi bien dans le poème de Lucrèce que dans la philosophie d'Épicure lui-même, ce repli vers soi et cette ouverture à autrui.
In piedi.
Seduti, seduti. Che cacci?
Presente.
Il povero professor Osti ti ha interrogato due volte in latino, è così?
Sì, due volte.
Leggo qui un impreparato e un quattro. Mentre tre giorni fa dal professor Balocchi hai meritato addirittura un otto. Otto?
Sì, credo di sì.
Che libro state facendo?
Il secondo.
Leggi e traduci.
Allora, lisez e traduisez.
Suave, mari magno, turbantibus aequor aventis.
Mais ce n'est pas l'Énéide, ce n'est pas Virgile.
Non, c'est Lucrèce. De rerum natura.
Un suicidaire en proie à une folie d'origine vénérienne. Lisez l'attention. Lisez l'attention et vous comprendrez pourquoi il ne fait pas partie de notre programme scolaire. Professeur Balocchi, donnez-moi une bonne raison, une seule raison qui puisse justifier pareille insubordination.
Je ne sais pas, m'étant moi-même passionné pour le latin à travers Lucrèce, je pensais qu'il intéresserait mes élèves. Je ne pensais pas que cela vous déplairait à ce point.
Vous pouvez partir.
Voilà pour nous, Vénus. Voilà.
Douceur, lorsque les vents soulèvent la mer immense, d'observer du rivage le dur effort d'autrui. Non que le tourment soit jamais un doux plaisir, mais il nous plaît de voir à quoi nous échappons. Lors des grands combats de la guerre, il plaît aussi de regarder sans risque les armées dans les plaines. Mais rien n'est plus doux que d'habiter les hauts lieux fortifiés solidement par le savoir des sages, temples de sérénité, d'où l'on peut voir les autres errer sans trêve en bas, cherchant le chemin de la vie, rivalisant de talents, de gloire nobiliaire, s'efforçant nuit et jour par un labeur intense d'atteindre à l'opulence au fait du pouvoir. Pitoyables esprits, cœurs aveugles des hommes, dans quelles ténèbres mortelles, quels dangers passent leur peu de vie? Ne voient-ils l'évidence? La nature, en criant, ne réclame rien d'autre, sinon que la douleur soit éloignée du corps, que l'esprit jouisse de sensations heureuses, délivré des soucis et de craintes affranchies. Ainsi, nous le voyons, bien peu de choses sont nécessaires à la nature corporelle, et tout ce qui ôte la douleur peut aussi nous donner maintes délices en échange. Thank you. ceux qui objecteraient à Épicure ou à Lucrèce, je suis en train de synthétiser les deux noms, que rien n'est plus difficile que de vivre dans cette tranquillité qui est la seule voie vers le bonheur, eh bien, Lucrèce leur rétorque que finalement, il est assez facile d'atteindre cet état. Il suffit en cela de suivre ce que la nature nous indique. Or, la nature indique très clairement, dans le texte que je viens de lire, que la douleur soit éloignée du corps, Pierre-Marie Morel.
C'est une sorte d'éloge de la vie facile, au moins en un sens. Et pourquoi est-ce que c'est facile? Parce que, tout simplement, la nature se satisfait aisément. Nos besoins réels, non pas nos désirs superflus, nos besoins réels sont aisément satisfaits. Et nous disposons, dans la plupart des circonstances, de tous les moyens nécessaires à une vie qui, en fait, peut être déjà dite heureuse. C'est-à-dire que le bonheur épicurien n'est pas une sorte d'idéal asymptotique, une espèce de chimère. Et c'est vrai que dans notre conception commune du bonheur, nous avons parfois une espèce de scepticisme au sens commun à l'égard du bonheur, ce qui peut du reste se comprendre devant la dureté des temps. Mais c'est-à-dire se dire que mais de toute façon, le bonheur, ce n'est qu'une une manière peut-être puérile, naïve, voire adolescente, de se représenter une vie meilleure. Les épicuriens croient très fermement, très concrètement, à un bonheur possible dès maintenant, dès cette vie, puisque de fait il n'y en a pas d'autre. Enfin, en tout cas, le bonheur nous est accessible. Il est sous notre main parce que dès lors que nous revenons à ce qui est fondamental, c'est-à-dire à nos besoins véritables, par opposition à des désirs inutiles et vains.
C'est ça, pour faire une distinction entre les désirs du corps qui sont nécessaires à notre survie et les désirs inutiles et vains qui sont forcément mortifères parce qu'ils limitent, parce qu'ils ne connaissent pas de fin.
Exactement. Si nous sommes capables de nous en tenir à des désirs limités, que ce soit les désirs qui concernent le corps ou ceux qui concernent l'âme, puisque le bonheur est avant tout dans la tranquillité de l'âme ou dans l'ataraxie, l'absence de trouble, alors nous nous tenons à distance de ces chimères, de cette illusion que nous entretenons lorsque nous poursuivons des objectifs illimités, insaisissables, l'accumulation des richesses, la quête du pouvoir politique, la quête de reconnaissance au sein de la cité, etc.
Mais si tout dans l'âme, telle que Épicure et Lucrèce la décrivent, est ancré, parce qu'il y a un matérialisme très fort quand même chez eux, est ancré dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du concret, c'est-à-dire si tout est fait d'atomes, comment expliquer que notre âme et notre corps nous conduisent vers des choses qui nous nuisent? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui soit par définition hors nature, puisque la nature, c'est-à-dire les atomes, sont tout.
Eh bien, on a un rapport en quelque sorte compliqué à la nature. Elle est toujours là, elle est omniprésente, c'est vers elle que nous devons toujours tendre, mais précisément, nous en sommes éloignés du fait de nos opinions erronées. Nous construisons, sous l'influence d'autrui, sous l'influence de la religion, en grande partie, on en a déjà parlé, nous construisons un certain nombre d'opinions fausses, de jugements fautifs sur les conditions du bonheur. Nous croyons à la colère des dieux, nous croyons aux châtiments infernaux, nous croyons que le plaisir ne se trouve que dans des objectifs lointains et presque inatteignables, et cela nous éloigne progressivement de la nature. Et donc, d'une certaine manière, tout le travail que nous avons à faire est de revenir à la nature. Mais comme on ne peut pas le faire de manière spontanée, immédiate, puisqu'après tout, on pourrait croire que la nature, on y accède simplement en se référant à une sorte de sentiment, une espèce d'intuition de ce qui nous est approprié, nous devons le faire par la raison. Donc ce qui nous éloigne de la nature, c'est un mauvais usage de la raison. Des illusions, des opinions sans fondement, un travestissement de la réalité des choses. Et par le travail de la raison, nous pouvons revenir à...
Mais ça veut dire que la nature n'est pas forcément bonne en elle-même, puisque c'est aussi de notre nature de tomber amoureux, de s'éloigner de la tranquillité de l'âme en étant happé par des passions qui nous attirent vers quelqu'un d'autre et donc éloignent de nous-mêmes ce sentiment de bien-être. Ça veut dire que pour être heureux, il ne suffit pas de suivre notre nature, mais notre nature rationnelle.
La nature en elle-même, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle nous indique les limites dans lesquelles nous pouvons trouver le bonheur. Elle nous l'indique de fait. Il y a toujours quelque chose d'inachevé ou d'insuffisant dans cette nature même, même si ce n'est qu'en revenant vers la nature que nous pouvons effectivement être heureux. Donc là, il y a bien un paradoxe. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une espèce de paradoxe dans le rapport à la nature. Et si on prend l'exemple de la passion amoureuse, puisque vous l'avez évoqué à l'instant, nous voyons bien que dans la passion amoureuse, il y a à la fois un principe naturel, le désir naturel de se lier à quelqu'un d'autre avec qui nous allons trouver un plaisir physique, et puis il y a en même temps des constructions fondées sur des opinions erronées et sur des illusions qui vont nous éloigner de la nature. Donc il y a à la fois une injonction initiale de la nature, Vénus nous pousse à l'amour, et en même temps une raison défaillante qui nous en éloigne.
Pour toi soudain le gris du ciel n'est plus si gris, pour toi soudain le poids des jours n'est plus si lourd, voilà que sans savoir pourquoi soudain tu ris, voilà qu'enfin tu as compris pourquoi tu vis, car te voilà, oui te voilà, amoureuse, 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 tellement amoureuse. Alors le ciel de nuit n'est plus si noir, c'est vrai qu'alors le jour qui ne naît plus si froid, c'est vrai, alors soudain tu sais pourquoi tu ris, c'est vrai, alors soudain tu sais pourquoi tu vis, car il est là, oui il est là. Soudain le cri du ciel redevient gris, et puis soudain le poids des jours redevient lourd, et voilà que tout est fini, l'amour se meurt, il est parti, et toi tu pleures, car c'est fini, oui c'est fini, malheureuse, malheureuse.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et Barbara qui chante les tourments de l'amour, passion, et les 10h27. C'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée à Lucrèce, le poète philosophe. Et aujourd'hui, c'est en compagnie du philosophe Pierre-Marie Morel, professeur de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de Atomes et nécessités, Démocrite, Épicure et Lucrèce, paru au PUF en 2013, ainsi que d'une introduction, traduction et des notes des lettres Maxime, autre texte d'Épicure, paru en Garnier Flammarion en 2011, que nous questionnons les chants de Lucrèce, et notamment cette question: comment maîtriser ses passions? Nous essayons de trouver une réponse. Écoutez Lucrèce.
Voilà pour nous, Vénus, voilà ce qu'on nomme l'amour. Voilà cette douceur qu'en nos cœurs, goutte à goutte, Vénus a distillée. Puis vient le froid souci. Que l'aimé soit absent, ses images pourtant sont présentes, son nom hante et charme l'oreille. Mais il convient de fuir sans cesse les images, de repousser ce qui peut nourrir notre amour, de tourner ailleurs notre esprit et de jeter en toute autre personne le liquide amassé au lieu de le garder au même amour voué et de nous assurer la peine et la souffrance. À le nourrir, l'abcès se ravive et s'incruste. De jour en jour croît la fureur. Le mal s'aggrave si de nouvelles plaies n'effacent la première, si tu ne viens confier au cours d'autres voyages le soin des plaies vives à la Vénus volage et ne transmets ailleurs les émois de ton cœur. Fuir l'amour n'est point se priver des joies de Vénus, c'est au contraire en jouir sans payer de rançon. Oui, la volupté est plus pure aux hommes sensés qu'à ces malheureux dont l'ardeur amoureuse erre et flotte indécise à l'instant de posséder, les yeux, les mains, ne sachant de quoi d'abord jouir. Leur proie, ils l'étreignent à lui faire mal, morsures et baisers lui abîment les lèvres. Impure, leur volupté cache des aiguillons, les incitant à blesser l'objet quel qu'il soit, d'où surgissent ces semences de leur fureur. Mais légère, Vénus, à l'instant de l'amour, vient briser la peine, tandis que la volupté, mêlant ses caresses, réfrène les morsures.
Fuir la passion amoureuse ne signifie pas pour autant renoncer à toute forme de plaisir, ni même de jouissance. C'est ce que le texte dit très clairement. C'est au contraire, pour mieux jouir, qu'il faut se tenir loin de la passion, Pierre-Marie Morel.
Tout à fait. Il y a quelque chose, alors là, pour le coup, d'absolument naturel dans le plaisir et dans la jouissance, y compris dans la jouissance physique. Et il se trouve que nous croyons la trouver dans un état passionnel qui, en réalité, nous en éloigne. Puisque, dans ce texte, on voit bien que, en fait, la passion amoureuse est cause de tourments. Elle est cause de soucis, Elle fait naître, comme le dit le texte, une coura, une préoccupation constante. Nous sommes anxieux, angoissés en permanence à l'idée que nous ne profitons pas suffisamment de l'être aimé, de son corps, de ses baisers, etc. Ou encore angoissés à l'égard du manque, à l'égard de l'absence, à l'idée de l'absence de l'être aimé. Et donc toutes ces choses que la passion amoureuse nourrit, c'est-à-dire le fait de fixer son désir sur un objet d'amour particulier, tout cela, en réalité, nous éloigne du vrai plaisir. Et dans le passage qui a été lu, Lucrèce parle d'un plaisir impur. Mais dans d'autres passages, il évoque au contraire un vrai plaisir, une uera voluptas, ou pura voluptas, un plaisir pur et véritable, qu'il assume parfaitement, qu'il revendique, et pour cause, puisque se conformer au plaisir et prendre le plaisir comme critère et règle de conduite, c'est le mot d'ordre de l'épicurisme. Et d'une certaine manière, à l'égard de la jouissance et du plaisir, on pourrait dire que les épicuriens nous disent quelque chose comme « c'est bien beau de jouir, mais encore faut-il que ça fasse plaisir ». C'est-à-dire que ça fasse véritablement plaisir. C'est-à-dire que nous croyons trouver des jouissances dans telle ou telle activité ou à tel ou tel objet, mais est-ce que véritablement cela va nous donner un véritable plaisir ? Et donc, il va s'agir, dans certaines circonstances, de calculer, de peser les circonstances pour savoir où se trouve véritablement notre plaisir, et face à la passion amoureuse, de se déprendre le plus possible, et même radicalement, en fait, de cet attrait passionnel et en réalité funeste.
Puisque tout a un fondement matérialiste chez Lucrèce, comment s'explique la naissance même du sentiment passionné, Pierre-Marie Morel ? Ce n'est pas simplement le cœur qui va être épris d'un sentiment, disons, éthéré envers quelqu'un d'autre, quelque chose de très matériel, encore une fois.
C'est la philosophie naturelle qui nous explique comment naît la passion amoureuse.
Alors, comment est-elle ?
Alors, elle naît d'abord parce que, physiologiquement, nous avons des besoins. Et juste avant le passage qui vient d'être lu, il y a un passage sur la physiologie de l'amour. Donc, Lucrèce ouvre tout ce développement sur la passion amoureuse par une espèce de petit traité de la physiologie, comment, à l'adolescence, un certain nombre de phénomènes attestent de l'émergence du désir et comment nous, naturellement, nous tendons à nous unir à un objet d'amour. Et puis, il y a des images qui viennent à nous, des simulacras, qui viennent à nous depuis l'être aimé ou potentiellement aimé, celui qui nous apparaît comme aimable, mais qui va nous apparaître comme aimable d'une manière particulière, que nous allons être tout entier tendus vers lui et d'une certaine manière vouloir retourner vers cette personne ce que nous avons reçu d'elle. Pour comprendre ce phénomène, il faut, à mon avis, se référer à la doctrine générale de ce que Lucrèce appelle les images ou les simulacres. Et ça, c'est pas propre à la passion amoureuse. Hein. C'est-à-dire que dans l'activité sensible, lorsque nous percevons le monde qui nous entoure, nous le percevons par l'intermédiaire de fines pellicules qui se détachent des objets. Lorsqu'il s'agit de la perception à distance, comme la vision, et donc nous recevons en quelque sorte les schèmes ou les esquisses par le biais de petites pellicules matérielles de ce que sont les objets. Et c'est comme ça que nous nous repérons dans le monde. Ces images en elles-mêmes, elles ne sont pas mauvaises. C'est au contraire le moyen de percevoir, et la sensation a toujours affaire à ces images-là. Il se trouve que lorsque nous recevons ce genre de simulacre, nous les interprétons souvent d'une manière qui n'est pas adéquate. Lorsque nous percevons un trompe-l'œil, lorsqu'un trompe-l'œil est dessiné sur une façade quand nous nous promenons dans la rue, nous croyons véritablement qu'il y a une profondeur, qu'il y a trois dimensions. En réalité, il n'y en a que deux.
Mais donc les simulacres sont source d'illusions ?
Pas par eux-mêmes.
C'est l'interprétation que nous en faisons.
C'est l'interprétation que nous en faisons. C'est-à-dire que si je me dis « Ah, mais là, il y a effectivement l'entrée d'un palais avec des colonnes, etc. », je me trompe, puisqu'en fait, c'est simplement un trompe-l'œil peint sur une façade. Mais le simulacre ne fait que me rapporter ce que je vois, et il est toujours vrai que je vois ce que je vois. En revanche, en inférer qu'il y a là véritablement un objet en trois dimensions, alors qu'il n'y a que deux dimensions, c'est une opération du jugement. Ce n'est pas contenu dans le simulacre lui-même, dans les images elles-mêmes, mais dans ce que nous ajoutons aux images, ou encore de ce que les épicuriens appellent l'opinion surajoutée, Épicure parle de pros doxazomenon, ce que l'opinion nous fait attribuer aux images en plus de ce qu'elles sont véritablement. Et donc, dans la passion amoureuse, nous avons affaire exactement au même processus, au même type de processus. Nous éprouvons de l'attirance, nous éprouvons de l'attirance pour une personne en particulier, et nous nous mettons à construire toute une espèce de roman amoureux autour de cette personne, et nous lui attribuons tout un tas de prédicats, de propriétés, qui font que nous en faisons un objet exclusif de passion. Et ça, c'est la source de tous les problèmes.
J'avais remarqué qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Bernard et Nathalie.
Tu sais que c'est à Nathalie que ça profite. Tout le camp lui est passé dessus.
Oh.
Tu t'es jamais faite, toi?
Ah non, moi non.
Tiens donc, pourquoi ça?
Je marche un peu sur des œufs avec les femmes parce que j'ai eu une année très difficile sentimentalement. Alors.
Moi aussi, j'ai eu les polyvalents dans mon salon.
Ouais, mais enfin, moi, j'ai eu une rupture. J'ai vécu avec une femme et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. Alors j'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider.
Comment ça?
J'avais très original dans ces moments-là, tu sais. J'ai mis l'adagio d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette.
Ça fait râler, hein.
Puis depuis, je m'en suis jamais vraiment remis tout à fait, quoi. Surtout du point de vue digestif, c'est plus comme avant.
D'un beau visage et d'un teint frais, rien ne pénètre pour réjouir le corps, hormis des simulacres ténus, espoir souvent emporté par le vent, pauvret. Vois l'homme que la soif en son rêve dévore. Pour éteindre ce feu, aucune eau n'est donnée, mais il recourt à des images, s'acharne en vain, mourant de soif au fond du torrent où il boit. Tels les amants, jouets des images de Vénus, leurs yeux ne pouvant se rassasier d'admirer, leurs mains rien arrachées aux membres délicats, ils errent, incertains, sur le corps tout entier. Il y a un remède à cette passion amoureuse, Pierre-Marie Morel. Il y a une manière de se détourner de ces petits simulacres qui sont autant d'espoirs emportés par le vent, nous dit Lucrèce, de se détourner ou bien de mieux les interpréter, puisque la vie dit qu'ils ne sont pas erronés en eux-mêmes, c'est l'interprétation que nous en faisons qui nous induit en erreur. Et ce remède, c'est essentiel de le mentionner dès à présent, puisque c'est constitutif du texte même de Lucrèce qui nous accompagne cette semaine. Ce remède se trouve dans la connaissance de la nature. D'où le projet de Lucrèce de proposer ce poème sur la nature des choses, car seule la connaissance nous délivre du mal et peut nous conduire au bonheur recherché.
Alors dans le cas de la passion amoureuse, il y a ce qu'on pourrait appeler des remèdes intermédiaires, même si ce que vous évoquez, et je vais y venir dans un instant, est au fond effectivement de cette thérapie des passions. Les remèdes intermédiaires, c'est justement proposer une alternative à l'amour-passion. D'où l'éloge par Lucrèce de la Vénus volage, d'un amour libre, d'un amour qui ne se fixe pas sur un seul objet, et qui est assez comparable à celui que le chant 5 l'évoque bien, que pouvaient vivre les hommes primitifs. Ils se rencontraient, ils s'unissaient au hasard des rencontres, et aucun d'eux ne concevait de la passion, c'est seulement le désir mutuel qui les unissait.
Ce serait le libertinage aujourd'hui?
Une forme de... D'accord. Et il s'agit donc de proposer, puisque de toute façon, le désir est là. Vénus est la loi du monde. Le poème s'ouvre par un éloge de Vénus et par ce désir qui habite tous les êtres vivants. Donc Vénus est là. Il faut la satisfaire d'une certaine manière. Et donc proposer un contre-modèle à celui de la passion amoureuse. Et dans la thérapeutique épicurienne des passions, il y a toute une série comme ça de modèles alternatifs. Avant d'en venir même au fond philosophique du remède aux passions. En ce qui concerne, par exemple, la quête du pouvoir politique, qui n'a pas son rapport avec la passion amoureuse, puisque là, on a évoqué le caractère errant, incertain, de l'amoureux qui ne sait jamais où trouver son véritable plaisir. Cette errance, Lucrèce en parle dans les mêmes termes à propos de l'agitation perpétuelle des hommes dans la cité et leur quête de reconnaissance et de pouvoir politique. Il y a des similitudes très frappantes chez Lucrèce entre le désir de s'approprier l'être aimé et le désir de s'approprier le pouvoir politique. Donc, au pouvoir politique, on va opposer un autre mode de vie. Au-delà de ces contre-modèles, il y a en effet un remède fondamental qui est la philosophie elle-même.
C'est-à-dire l'étude de la nature.
C'est-à-dire l'étude de la nature. C'est comme ça que Épicure déjà définissait d'une certaine manière le propos central de la philosophie comme une physiologia en grec, c'est-à-dire une théorie de la nature, une théorie de la physis. Et Lucrèce traduit cette expression et ce propos sous l'idée d'une naturae species ratioque, c'est-à-dire le spectacle et l'explication de la nature. Contempler la nature et en découvrir les causes, en faire émerger les causes.
Alors écoutons Lucrèce au livre 3 de la nature, interprété ici par Georges Clès.
Si les hommes pouvaient, aussi bien qu'ils ressentent au fond de leur esprit le poids qui les épuise, en connaître les causes, et savoir d'où provient cette masse énorme, le mal qui tient leur cœur, ils ne vivraient pas comme on les voit très souvent vivre, ignorant ce qu'ils veulent et réclamant toujours un autre lieu comme pour y déposer leur fardeau. Tel se précipite hors de sa vaste demeure, dégoûté d'être à la maison, et soudain rentre, ne se sentant pas mieux nullement au dehors. Il court, il vole à sa villa, harcelant sa monture, comme s'il venait secourir les bâtiments en flammes. Le seuil à peine atteint, il se met à bâiller, tombe en un lourd sommeil pour tenter d'oublier, à moins qu'il ne se hâte d'aller revoir la ville. Ainsi, chacun cherche à se fuir, impossible rêve. On reste fixé à soi-même et l'on se hait, car la cause du mal échappe à qui en souffre. Si on la voyait bien, laissant là tout le reste, on se consacrerait à l'étude de la nature. Car son enjeu n'est pas une heure seulement, mais l'état éternel dans lequel les humains resteront tout le temps au-delà du trépas.
Le portrait de cet homme en proie au mal de vivre a des échos étrangement contemporains. On a pris entre une suractivité et un ennui. On est dans une forme de constat qui ressemble l'analyse que Pascal, le philosophe Blaise Pascal, propose du divertissement, hein, Pierre-Marie Morel.
Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que la très belle traduction de José Cagny-Turpin fait vraiment bien ressortir cette inquiétude permanente qui fait tout à fait penser au divertissement pascalien, le fait de rentrer chez soi et puis en fait
de s'ennuyer, de vouloir ressortir immédiatement.
Voilà cette agitation incessante, cet affairement constant qui s'oppose à la tranquillité de l'âme, au repos de l'étude et au retrait serein à l'égard du monde. Tout cela est pour nous extrêmement parlant et tous les objets qui stimulent sans cesse notre pensée et notre attention, que ce soit par le jeu d'Internet ou de nos magnifiques téléphones, tout cela me fait tout à fait penser à ce que constamment penser à l'égard de quoi Lucrèce nous met en garde.
Alors il nous reste 2 minutes pour expliquer en quoi l'étude de la nature peut être une solution, un remède à notre mal de vivre, Pierre-Marie.
L'étude de la nature, elle nous montre les véritables causes. Dès lors que nous connaissons les véritables causes, et fondamentalement la physique des atomes et du vide que nous évoquions initialement, alors nous sommes capables de ne plus craindre les dieux, ne croyons plus qu'ils cherchent à nous punir, que ce sont eux qui nous rendent amoureux en nous envoyant des petites flèches. Nous ne craignons plus la mort, parce que nous savons par la physique qu'après la mort, nous ne serons plus là, donc nous n'aurons plus rien à craindre.
La peur de mourir n'a aucun sens, puisque nous ne serons plus là pour avoir peur.
Elle est physiquement absurde. La peur de la mort est physiquement absurde. Et de même, grâce à la nature, nous connaissons la limite des plaisirs et des douleurs. Dans ce cas, nous n'avons même plus rien à craindre des passions. Il ne s'agit même pas de les éradiquer, mais nous pouvons tranquillement rapporter nos émois passionnels à ce que nous savons que la nature est fondamentalement. Ramener la passion à la nature et donc ne même plus craindre la passion.
Et c'est ça, pour le coup, est-ce que la connaissance de la nature qui nous permet d'atteindre cet état-là est-elle particulièrement technique ? Enfin, jusqu'à quel point faut-il bien connaître cette nature ?
Elle est technique. Et
ce n'est pas simplement la nature de l'homme qui nous constitue.
Non, il y a
toute une physique qui est derrière.
De toute façon, la nature de l'homme n'est qu'une région de la nature totale.
C'est ça, donc il faut quand même des connaissances scientifiques, dirions-nous aujourd'hui.
Alors, Épicure, justement, pour y revenir, puisque c'est de lui que tout découle, au début de sa fameuse lettre à Hérodote, nous dit qu'on peut intégrer le système par diverses voies. On peut être un spécialiste, un physicien professionnel, mais on peut aussi saisir les principes fondamentaux, le condensé de la philosophie et de la physique, et donc connaître ce qui est essentiel et suffisant pour vivre heureux en se référant à la nature telle qu'elle est véritablement. Donc, non pas nécessairement investiguer tout le détail de la philosophie naturelle, mais se pénétrer des principes fondamentaux de cette théorie de l'univers.
C'est ce qu'on va essayer de faire cette semaine jusqu'à jeudi. Un grand merci à vous, Pierre-Marie Morel, d'être venu ouvrir cette semaine. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de « Atomes et nécessités », « Démocrite, Épicure et Lucrèce », publié aux éditions PUF, ainsi que des lettres, maximes et autres textes d'Épicure que vous avez traduits, annotés et rédigé une introduction dans l'édition de Garnier Flammarion.
Pour leur plaire aux femmes, dites donc, dites-moi madame, qu'ai-je donc? Perfide ou sincère, c'est selon, qu'en faut s'en défaire, ce coton. Laissez-moi, laissez-moi tranquille, laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi tranquille, laissez-moi. Gueule pareille, nom de nom, ne me manque qu'aux oreilles des pompons. Et si je marchais à croupetons, j'aurais tout du pauvre à Liboron. Laissez-moi.
Restez tranquilles, chers auditeurs, comme le chante Gainsbourg qui demande à ce qu'on le laisse tranquille. Mais Épicure et Lucrèce, bien compris, vous donne la solution, le remède, justement, aux affres de la vie en communauté. Et lisez surtout Lucrèce, De Rerum Natura, de la nature. Vous le trouvez dans plusieurs traductions. Aujourd'hui, nous avons utilisé celle de José Caniturpin qu'on trouve en Garnier Flammarion.
Mes chatons, allez vous faire pendre, allez donc. Ailleurs qu'à mon gilet, à quoi bon? Je ne suis pas le gibet de mon faucon.
Nous avons peu parlé de la peur de mourir qui est pourtant essentielle au sein de ce texte. Eh bien, nous en parlerons davantage demain en compagnie d'Elisabeth de Fontenay. Nous parlerons du rapport à la religion et comment se défier des dieux entre crime et religion. Donc, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h48. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous allez nous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Alors aujourd'hui...
Alors c'est la réédition d'un texte d'Erwin Panofsky, Galilée critique d'art, et c'est aux impressions nouvelles.
Le chagrin a des ombres qui semblent aussi vraies que lui-même. À travers vos larmes, vous voyez 1000 reflets d'une seule image, mais ces formes obscures dont votre âme se peuple ne sont que fantômes, illusions. Pleurez le départ du roi, mais rien de plus.
Dans sa pièce, Richard II, Shakespeare confie le soin de rassurer la reine au personnage de Bouchy, le gentilhomme du roi. Mais à la différence de ce qu'on a entendu à l'instant, celui-ci ne se contente pas dans le texte d'évoquer les ombres du chagrin qui projettent sur un événement ordinaire tout un ensemble de peurs et de fantasmes. Bouchy, pour soutenir son propos, va jusqu'à comparer le chagrin et ses spectres avec les jeux sur les perspectives dans l'art. L'un comme l'autre, dit-il à la reine, n'offre une forme distincte que de biais, mais de face, ils ne sont que confusion. Entre le chagrin et la perspective artistique, les mêmes trucages, donc les mêmes chimères. Soit tout ce que peut détester un scientifique. Un scientifique comme Galilée, en tout cas, comme le révèle l'historien de l'art Erwin Panofsky dans un essai écrit en 1954. C'était un essai qui était devenu introuvable, mais que les impressions nouvelles viennent de rééditer. Du rapport de la science à l'art, tel est bien l'enjeu de ce texte, mais on aurait tort d'y voir une seule opposition en partant de la figure de Galilée. Car Galilée, loin d'être justement de n'être qu'un scientifique, était avant tout un passionné d'art, rompu au classicisme, contre le maniérisme et pour l'ordre de la Renaissance. Au point que Panofsky avance alors cette thèse, et si son rejet des chimères, du mysticisme et des allégories dans l'art l'avait en fait fait passer à côté de ce qu'est physiquement le mouvement, non pas inerte et irrégulier, mais continu et déformé. Et si les théories scientifiques de Galilée et ses limites tenaient-elles en fait plus à l'art et à ses goûts esthétiques qu'à la science elle-même? Le philosophe Alexandre Coiret, dans un commentaire de l'essai de Panofsky publié à sa suite, relève lui aussi la concordance entre l'esthétique et le scientifique, de quoi souligner souligner que l'attitude esthétique qui dépasse largement le cadre de l'art nourrit et forme toujours la pensée la plus stricte.
Merci Géraldine. Galilée, critique d'art donc.
Galilée, critique d'art, traduit de l'anglais et préfacé par Nathalie Hennick et c'est aux Impressions Nouvelles.
Merci Géraldine, merci Pierre-Marie Morel et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin. Pas d'inquiétude, on se retrouve demain, donc comme je le disais, avec Elisabeth de Fontenay qui viendra pour ce second temps, ce deuxième temps consacré à Lucrèce, le poète philosophe et son essai, son poème de la nature. Demain, eh bien, nous vous dirons que les dieux existent, mais ils sont impassibles et indifférents à notre sort et c'est sans doute une bonne nouvelle. D'ici là, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins pour les indications bibliographiques et musicales sur l'émission du jour. Vous pourrez aussi la réécouter en ligne ou bien en la téléchargeant, la podcastant afin de l'écouter à l'heure de votre choix. Puis rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.